Allons nous gaver d'amour jusqu'à en crever.
Oui.
On vient de faire l'amour, tu sais.
Non, tu viens de faire l'amour.
Je vous demande pardon.
Est-ce que vous l'aimez?
Je t'aime.
Et qu'est-ce que je peux bien répondre à ça?
Bonjour Clara.
Bonjour Flore et bienvenue dans Rome Comment, le podcast qui t'explique comment sont construites tes rom-com favorites. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, c'est un épisode un peu inné, un peu obligé, puisque c'est un épisode spécial Saint-Valentin, 2 semaines après la Saint-Valentin.
Joyeux Saint-Valentin les filles.
Mais un homme dans mon salon. Dans notre salon. Et oui, car aujourd'hui nous accueillons un invité très spécial,
Adrien.
Bravo, bienvenue.
Salut à tous les auditeurs et auditrices de Clara et Flore.
Oh, j'adore, mon dieu, ça y est, on est Insta famous, ouais. On est Ocha famous, on est Spotify famous.
On est trop contents parce que du coup c'est le premier épisode qu'on a avec un invité. Et du coup, comme on l'a dit, c'est le colocataire de Clara.
Colocataire et ami.
Et voilà.
Parce que si c'était seulement mon colocataire.
Et il a aussi plein de cordes à son arc. Parce que si tu peux nous dire un peu ce que tu fais dans la vie.
Oui, alors dans la vie, moi je fais des études de théâtre et de cinéma. Et j'ai pour ambition de devenir scénariste.
Ouais, donc du coup ici connaît.
Voilà, donc il y a deux. Clara a quand même fait des études de cinéma, donc c'est plutôt moi qui, encore une fois, va être la seule à parler des cols roulés des personnages. Et il y aura des gens qui auront des.
Il y en a pas beaucoup dans celui-là.
Ouais, il y a pas de cols roulés, c'était dur, mais il y a un Sweet American Apparel qui m'a fait un retour dans les années collège. C'était intense.
Éprouvant. Comme c'est la fête des amoureux, on est donc trois beaux célibataires autour de cette table ce soir pour vous parler d'un film qui nous tient particulièrement à cœur. On a voulu le choisir parce qu'on voulait une rom-com trop mignonne pour la Saint-Valentin, un truc très un peu genre cliché, mignon, etc. Mais ça nous tient aussi à cœur parce que c'est une thématique qui n'est pas souvent abordée dans la rom-com. On a choisi une rom-com LGBT, on a choisi une rom-com queer, LGBT+. On a choisi Love, Simon.
Alors Love, Simon, c'est un film qui est pas forcément trop connu, surtout en France. Du coup, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument aller le voir. C'est un film qui est sorti en 2018, qui est réalisé par Greg Berlanti. Et qui à la base est basé sur un bouquin qui est un bouquin pour les ados, enfin c'est de la fiction pour adolescents.
Que Flore a lu.
Voilà, que j'ai lu pour ce podcast, donc voilà. Et qui s'appelle, il y a un nom différent, ça s'appelle Simon versus l'agenda homo sapiens. Voilà.
Ah.
Gay, c'est la blague sur le gay agenda. Et qui a été écrit par Becky Albertalli.
Beaucoup de
donc, voilà,
et dans ce nom.
Voilà, et c'est donc le film, c'est avec le personnage, enfin l'acteur principal, pardon, s'appelle Nick Robinson, et on fait des bisous à Jennifer Garner, notre queen des rom-coms,
oui, je l'adore,
qui est dans le film.
Pourquoi d'abord est-ce que ça nous tient à cœur de faire Love, Simon? Parce qu'on est trois très beaux célibataires, mais on est trois très beaux célibataires queer.
Oui.
Et c'est vrai que la représentation de nos sexualités, orientations sexuelles dans les rom-coms, c'est pas ce qui court les plages. On a donc choisi Love, Simon, et on a aussi choisi ce film pour son trope qui est pas vraiment connu et pas très répandu, qui est le trope de l'amoureux secret.
Voilà, c'est le love interest, tout le film, on ne sait pas qui c'est.
Voilà, jusqu'à la fin. Est-ce que Adrien, tu veux nous raconter de quoi parle Love, Simon? Je sais que tu en meurs d'envie.
Oui, avec plaisir. Et déjà, merci les filles parce que j'avais pas vu le film avant d'être invitée, donc je suis trop content de l'avoir découvert.
On répand la bonne parole.
Les témoins de Jéhovah, watch out.
Et du coup, Love, Simon, c'est l'histoire de Simon qui a à peu près 16-17 ans, qui est en première au lycée et qui a une vie parfaite, des parents hyper modernes, la mère est psychologue, des super amis, enfin tout est génial, sauf qu'il a un secret, il est homosexuel et personne ne le sait dans son lycée. Et en fait, il y a un espèce de blog à la Gossip Girl.
C'est vrai que c'est très Gossip Girl, moi, donc.
Dans le lycée, où donc il y a des petits potins qui apparaissent et il y a quelqu'un qui fait son coming out à travers le blog et on ignore son identité. Et à partir de ce moment, Simon se dit qu'il n'est pas tout seul et il commence à correspondre avec ce jeune homme. Et toute l'intrigue du film consiste à savoir qui est-il et vont-ils se rencontrer et tomber amoureux.
Voilà, qui est le mystérieux Blue? Et bien, si vous voulez savoir, déjà j'espère que vous le savez parce que j'espère vraiment que vous avez vu le film parce qu'on va sinon vous spoiler.
Ce serait dommage.
Mais attention.
Il faut que je vous dise quelque chose. Je suis hétéro. J'aime les filles.
Quoi, tu veux ma mort?
J'aime les mecs.
Le premier plan du film est en totale contradiction avec la première parole du film, puisque Simon nous dit « je suis comme vous », alors qu'en fait son père lui offre une énorme voiture qui a l'air très cher.
Mais c'est clairement la vie des ados américains où en fait à 16 ans t'as une bagnole. Et en plus, surtout, ils nous disent que sa vie est normale comme tout le monde. Sa mère, c'est Jennifer Garner, les gars.
Et puis il a non seulement une voiture, mais il passe chercher tous ses copains qui ne payent pas l'essence, du coup. Et il passe chercher des cafés glacés avant d'aller au cours. Alors j'aurais adoré, hein, mais tout de même.
Clairement, j'avais pas le budget Starbucks au lycée. Quand on allait au Starbucks, c'était grave l'événement au lycée. On était là, surtout, genre.
Mais à 17 ans, vous buviez du café surtout ?
Ah bah bien sûr. Moi j'ai passé mon bac grâce au café, j'aimerais remercier ma mère et le café. Bon, mon mec, clairement, c'est les deux responsables. Simon, c'est donc un mec lambda. Déjà, il est blanc et cisgenre, on pense, hétérosexuel aussi. Et il a une famille nucléaire classique. Il a une petite sœur qu'il aime bien. Il a deux parents qu'il aime bien. Il a trois potes, dont deux racisés. Donc vraiment, c'est le schéma parfait.
Oui, petite parenthèse par rapport au fait qu'on présente tous ses amis. C'est vrai qu'il a des amis qui sont racisés. Et d'ailleurs, même son love ses love interests peuvent l'être, etc. C'est aussi le cas dans le livre. Du coup, c'est pas forcément le film qui a choisi. Parce que c'est un peu courant parfois que le film essaie d'être plus inclusif que le bouquin. Ouais. Et le bouquin est très inclusif de base. Donc merci l'autrice.
Bravo, kudos. Sa vie, elle est donc vraiment très classique. Il a l'air d'un crusty white boring boy, which is why Flore l'adore.
Genre, il est un peu awkward, mais il est drôle, il est beau, il est genre...
Regarde, sa voix, elle a tremblé. C'est vraiment...
Voilà. Mais malheureusement, il ne mangera pas de ce délicieux pain que je suis.
Il a un secret, Simon. Et ce secret, on le comprend grâce au jardinier qui passe en face de chez lui, puisqu'il essaye dans une... dans un essai, on va dire, piètre... mais touchant de lui adresser la parole en lui disant qu'il aime bien ses bottes.
Heureusement, le jardinier n'entend pas vraiment ce qu'il dit et Simon monte en voiture en mode genre what did I do?
Vraiment, c'est une scène, je trouve, qui est vraiment classique de quand t'es ado et que t'essaies de parler à quelqu'un que t'aimes bien et après t'es genre t'y penses la nuit, genre ça te réveille, c'est vraiment terrible ce moment.
Mais du coup, on apprend grâce à cette interaction qu'il a un grand secret. Il est homosexuel et il le dit en plus un peu, je crois, dès le début, qu'en fait c'est un secret sans que vraiment il sache pourquoi c'est un secret, qu'il est un peu en mode bah pourtant c'est pas forcément un truc que j'ai envie de cacher, c'est juste que j'ai jamais trouvé vraiment le temps de le dire. Bon, après on comprendra dans le film que ça c'est un peu du mytho, enfin qu'il a quand même un peu du mal avec son identité. Preuve en est avec la première interaction qu'il a quand il arrive au lycée, on rencontre le personnage de Ethan.
Qui est du coup le seul jeune homme ouvertement gay du lycée, apparemment.
Je crois même la seule personne, hein, parce que... Ouais.
Oui, parce qu'on nous présente pas de jeunes femmes lesbiennes.
What a shame.
Et en plus de ça, Ethan est habillé de façon très féminine.
Il a beaucoup de couleurs, il a des genre une, je sais plus quoi, il y a deux jocks qui passent à côté de lui qui disent ouais, ton genre pas les gays, bon ok.
Et du coup c'est cool parce que ça présente déjà dès le début, même si le parcours de Simon va évoluer, deux homosexualités qui s'expriment complètement différemment.
Ouais.
Et c'est le moment où il y a Simon qui dit et il fait une remarque, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais quand justement les deux autres se moquent du personnage d'Ethan, Simon dit ah j'aimerais bien que Ethan leur rende pas la vie, enfin leur donne pas autant de matière à rire.
Oui, parce qu'il répond.
Ouais. Voilà, et c'est un peu un commentaire de Simon où tu sens qu'il est un peu en mode de, ah ben si jamais il était pas aussi flamboyant dans son homosexualité, ben les gens se moqueraient pas de ça.
Et l'homophobie internalisée,
voilà, un peu d'homophobie internalisée, clairement.
Il faut savoir que le personnage d'Ethan a les meilleures répliques dans ce film, puisqu'il dit que pour Halloween il veut être, et je cite, en anglais c'est slutty Charmander, donc en français ce serait un salamèche en salope, et je trouve ça extrêmement
clairement drôle. Moi je vais être trop pote avec Ethan, il a l'air trop bien,
de ouf. C'est aussi à ce moment là qu'on apprend que au lycée, donc c'est Creeks High School je crois, il y a un blog. Et il y a un blog, en fait, à la Gossip Girl, du coup, qui raconte un peu les gossips de tout le monde. Et en fait, les gens peuvent poster de manière anonyme ou pas sur ce blog. Et donc, en gros, Léa, l'une des meilleures amies de Simon, elle est complètement accro à ce blog. Et genre, elle arrête pas de l'appeler et de lui dire oh, « Mais t'as vu la nouvelle? Mais t'as vu sur le blog? Mais machin a couché avec machin et tout. »
Parce que pour présenter quand même, on est passé rapidement sur ses amis, puisqu'ils vont revenir, on va quand même citer leur prénom. Ouais. Léa, qui est jouée par la fille qui jouait dans 13 Reasons Why.
Exactement. Qui jouait Anna Baker,
voilà,
l'héroïne.
Exactement. Ouh, et ensuite, on a Abby et Nick.
Abby
donc
et
ça,
Nick.
C'est les quatre principaux.
Voilà, et on sait que Nick et Léa, c'est ses amis depuis l'enfance. Et Abby, elle vient d'arriver, en gros. Mais, et en fait, ça va avoir une importance, puisque ça va être plus facile de se confier à elle, puisqu'il y a moins de background.
On en viendra après, quand le coming out arrivera.
Juste après, on se retrouve dans les couloirs du lycée. On comprend que Simon fait partie de l'atelier théâtre et qu'ils sont en train de monter cabaret, enfin même atelier comédie musicale,
ouais,
pour être honnête.
Tout le monde chante, hein, ça a l'air trop bien.
Et dans ce groupe-là, il y a un jeune homme assez lourdingue qui s'appelle Martin. et qui a l'air de grave kiffer Abby, donc une des amies de Simon. Et ce personnage va se révéler assez important pour la suite.
Ouais, clairement. Donc, il faut le noter, n'oubliez pas Martin, il revient.
Malheureusement, il revient. On retourne ensuite dans la cellule familiale, le cocon de bonheur de Simon. Simon Spears, il s'appelle.
Ouais.
Je crois que c'est ça.
Oui, et en plus, il le dit dedans. Simon, ça veut dire celui qui voit.
Celui qui voit.
Et Spears, celui qui entend.
Ouais. Et mais c'est dit beaucoup. C'est très dit dans le livre qu'en fait, il est extrêmement curieux, mais un peu. Enfin, l'expression en anglais, être nosy. Enfin.
Ouais, genre il fouille.
C'est un fouineur. Voilà, il est exactement, il est fouineur. Et qu'en fait, dans le bouquin, même ça lui porte. Il se rend compte qu'il est un peu trop gossip et qu'en fait, il s'intéresse pas forcément aux sujets les plus importants.
Dans le film, il a pas trop ça. Je trouve que le gossip est vraiment apporté par le personnage de Léa. Mais bon, quoi qu'il en soit, retourne avec ses parents et donc on apprend que sa mère est psy. Genre, elle essaye de psychanalyser lui et sa sœur un peu tout le temps, donc c'est un peu le running gag. Et en fait, c'est soirée DVD vendredi soir et il décide de regarder un épisode du Bachelor. Et on va voir la première marque d'homophobie au sein de la famille par le papa.
Ouais, qui est une homophobie un peu. Enfin, c'est pas classique, mais c'est déguisé, c'est-à-dire qu'on c'est pas vraiment homophobe, mais en fait c'est quand même très limite. Qui est le père qui fait une blague en mode, mais de toute façon le mec du Bachelor, je comprends pas pourquoi ils l'ont sélectionné, parce que de toute évidence il est gay, vous avez vu comment il est. Il dit à lui-même, il est une marche des fiertés entières. Et c'est vrai que cette scène, je trouve, elle est super touchante, parce qu'il y a vraiment ce moment où du coup les gens plus ou moins rigolent, la sœur a dit au père mais arrête de dire ça, et il y a Simon qui est sur le canapé qui dit rien, qui est vraiment en mode
qui a genre 66 mentons, genre
gloups. Et je trouve que c'est une scène que malheureusement tout le monde probablement autour de cette table et tous les éditeurs queer qui sont là ont peut-être déjà vécu, qui est la scène où t'es assis à côté de quelqu'un qui ne sait pas ton orientation sexuelle
et qui dit quelque chose de très homophobe
et qui dit mais en fait je sais pas ce qui est pire, parce qu'à la limite quand c'est très homophobe c'est bon, tu les catégorises directement en gens très cons, mais quand c'est des trucs comme ça très subtils venant des gens que t'aimes, c'est hyper dur.
Surtout que le personnage du papa a l'air assez friendly de manière générale, on sent que ça va pas être une homophobie hyper violente, mais du coup pour Simon c'est un entre-deux qui est hyper difficile, surtout que juste après ils ont une scène un peu mignonne où il lui demande de l'aider à faire un montage vidéo pour sa mère, enfin
oui c'est très mignon, il a fait des transitions en forme de cœur et tout, enfin, c'est
clairement mes PowerPoint quand j'avais en 2003 pour faire des trucs pour mes meilleurs potes, voilà.
Et là on va avoir le petit élément déclencheur puisque Léa Gossip Girl va facetimer Simon. Ils arrêtent pas de se facetimer, et alors je pensais que c'était des fous, mais en fait c'est un truc de jeune, parce que mes frères ils font ça aussi. J'ai un frère qui a 6 ans de moins que moi, et mon frère de 17 ans, donc FaceTime ses potes, genre quand. Mais enfin.
Mais envoie un snap.
Non, mais je sais pas, non, mais nous on s'envoie à la rigueur des audios, mais je trouve qu'on est plus la génération de texto. Genre, moi c'est ma hantise de parler à quelqu'un.
C'est ça, déjà nous on n'aime pas s'appeler, donc imagine, en plus tu t'appelles avec le visuel.
Oui, c'est ça, alors puis en plus t'es bloqué avec ton téléphone.
La seule personne que je Skype, c'est ma cousine qui habite en Argentine, donc il faut que quelqu'un soit sur un autre continent, genre, pour que je puisse vraiment le FaceTimer. Léa, le FaceTime Simon pour lui dire quoi?
Pour lui dire qu'il y a quelque chose sur le blog Gossip Girl. Adrien Gossip Girl, dis-nous tout.
Eh bien, il y a un garçon qui s'appelle Blue qui vient de révéler son homosexualité.
XOXO.
Dans un post avec une image clairement Windows 90 d'une grande roue, où il dit: j'ai l'impression que ma vie c'est une grande roue. Parfois je suis en haut, parfois je suis en bas, parce que j'ai une super vie, mais j'ai un secret. Je suis gay.
Quoi, Flore? T'es gay?
Oh my god!
Personne m'avait prévenu!
Et là, c'est assez drôle parce que du coup, Simon tout de suite va avoir envie de correspondre avec ce jeune homme.
Ah, mais direct, il se crée une adresse le gars plus rapidement que quelqu'un qui rentre dans une entreprise. Genre, il fait tac tac!
Et Simon, bah, je m'identifie vraiment à ce personnage parce que déjà, il écoute de la musique sur des vinyles. Et en fait, quand il se crée. Donc, il est casse-couille, comme moi.
Il a une très belle chambre, très artistique.
Voilà. Et avec des affiches de groupes indie obscurs. Et
c'est vraiment
surtout,
ton mec, Flore.
C'est moi, en fait. Vraiment, je suis insupportable comme personne. Je suis tranquille chez moi-même. Mais du coup, quand il se crée une adresse email, il la crée en rapport avec la chanson qu'il est en train d'écouter.
Oui.
En
From mode, my
c'est symbolique et tout. Vraiment insup, mais complètement quelque chose que j'aurais fait.
Mais le texte en lui-même, je trouve, de Blue est même très émo. Genre, enfin, le truc de se comparer à être sur une grande roue. Moi, genre, vraiment, je suis bête. Genre, j'aurais écrit, je sais pas quoi dire, je suis lesbienne. Genre,
c'est, bah, c'est pas pour toujours parler de mon Skyblog de troisième, mais ce genre de texte, c'était clairement sur mon Skyblog de troisième. À part que moi, je signais, je suis hétéro, parce que. Écoutez,
c'était
voilà.
Une époque. It was a face, mom. Du coup, il crée un compte pour le répondre, et comment il s'appelle?
il s'appelle Jacques parce que il tourne la tête en cherchant le pseudo avec lequel il va signer et il tombe sur une photo de sa famille avec la tour Eiffel incrustée derrière.
C'est vraiment pas le bon pont en plus. Genre, j'ai regardé, c'est un pont hyper arty et tout. Mais il n'y a pas de moi la tour Eiffel, ce pont.
Et du coup, c'est très important pour la suite de l'intrigue et pour ces petits plot holes que vous sachiez que du coup, il correspond avec une adresse mail différente de la sienne et du coup, pas son prénom.
Mais ouais. D'ailleurs, je sais plus si c'est vraiment précisé dans le film, mais moi, que le fait qu'il s'appelle Jacques, j'étais là, mais pourquoi Jacques. Est-ce qu'il prend un prénom comme ça ou en anglais Jacques? Mais c'est parce qu'en fait, Jacques a dit, en anglais c'est Simon Says, donc son Simon a dit. Donc voilà, lui, en lui-même, en fait, il est là, genre, personne ne saura, mais je laisse un peu un petit truc, mais avec une petite vignette.
Ils le disent,
je sais pas si vers la fin du film.
Il voulait clairement se faire repérer, en fait.
Oui, mais c'est un peu un truc aussi, je trouve, de. On va parler coming out. Le truc du coming out, c'est que tu veux pas le dire, mais t'as envie que les gens le sachent. Et en fait, le fait de. De come outer, je sais pas comment on le dit, c'est beaucoup de genre j'aimerais que ça se sache et pas en faire tout un foin, donc je vais pas le dire parce que ça va faire tout un foin, mais en même temps je vais glisser des petits hints comme ça et tout. Genre, moi je sais qu'on va parler coming out, clairement. Quand j'ai fait mon coming out, j'ai pas dit je suis gay, j'ai dit j'ai une copine. Parce que comme tu vois, ça, t'as une copine.
J'ai eu une copine,
non, mais je trouve que ça passe beaucoup mieux. En fait, c'est moins difficile à dire et tout, enfin voilà.
Et du coup, à partir du moment où il envoie le mail, en fait, là, il redit le speech qu'il a fait au début du film, qui dit « j'ai une vie totalement normale, mais moi aussi j'ai un secret ». Il dit pas directement qu'il est homosexuel, il dit juste « j'ai aussi un secret ». Et du coup, dans ce moment, je trouve ça ultra intéressant par rapport au trope, pour revenir un peu sur le trope, parce que du coup, c'est dans la partie, dans les rom-coms, il y a toujours un moment où le love interest est amené et on le découvre. Et là, le love interest apparaît, mais... Bah en fait, on sait pas qui c'est. Du coup, c'est un peu étrange parce que normalement, dans une rom-com, tu vois toujours les deux protagonistes, tu les vois évoluer. Et là, t'en as qu'un seul, en fait.
Et c'est frustrant, je trouve.
Et en même temps, du coup, comme on voit ça du personnage de Simon, on suit ses images, enfin, toutes ses projections, on va le voir après, mais il projette beaucoup, il se fait des scénarios dans sa tête.
Mood.
Et, mais du coup, c'est vrai que c'est drôle une rom-com où tu ne sais pas qui est l'autre love interest.
Voilà, c'est ça. Et puis, bah, du coup, le truc aussi, c'est que, qui est assez réaliste, je trouve, c'est que, il écrit son mail et genre, c'est le high de sa vie. Genre, il est comme ça, genre, oh putain, j'ai fait ça et tout. Et en fait, le lendemain, bah, il y a pas de réponse et genre, il doit aller au lycée.
C'est trop chou. Il sort de classe, il demande, pour aller faire pipi, pour vérifier ses mails dans les toilettes. Alors que clairement, après, pendant la suite du film, il regarde son portable en classe.
Mais
c'est vraiment trop chou.
C'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, il y a pas de réponse de Blue. Mais, au self, il y a un très 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 beau garçon, et même moi je vous le dis, il est extrêmement beau ce mec. Il lui demande une frite et il va pas lui demander qu'une frite.
Il y a ce petit moment un peu taquin où en effet le personnage de Bram demande des frites à demande de piquer des frites à Simon. Donc Bram, un nouveau personnage qu'on n'a pas encore vu, qui a un ami un peu plus dans le groupe étendu de Simon.
Très beau.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Bram du coup parle à Simon. Simon qui lui est sur son téléphone en train de désespérément essayer d'avoir des messages de Blue. Et c'est un peu un petit propos de, en fait, tu es sur ton téléphone pour essayer de trouver une personne qui en fait
pourrait être juste devant toi. Ça se
peut-être
trouve, c'est lui.
Qui sait, on ne sait pas.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment que tout le monde a vécu à l'école, puisque Simon se fait confisquer son téléphone. Et alors, je sais pas vous, mais moi, quand on confisquait un téléphone, je trouvais ça débile au lycée. Parce que, genre, déjà, tout le monde a un téléphone, donc si tu veux faire n'importe quoi pendant les cours, tu prends le téléphone de ta pote. Enfin, très clairement. Et ensuite, il est là, genre, non, mais faut que tu regardes le monde autour de toi, je te prends ton téléphone pour te donner une leçon et tout. Mais.
Oui, enfin, en plus, le proviseur, non, le vice-principal est un personnage wannabe jeune et cool.
N'importe quoi.
Alors que, enfin, c'est surtout une blagounette, mais.
Et en même temps, ça sert encore une fois à ce propos un peu. Enfin, c'est intéressant quand il le met en perspective dans le propos du film, qui est, parce que c'est ça qu'il dit le vice-principal. Il dit. Le téléphone, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est dehors. Enfin, il fait une espèce de métaphore. Et en fait, dans ce film, il y a un peu un côté, c'est quoi la vraie vie, en fait? Est-ce que la vraie vie, c'est la relation que tu peux avoir avec quelqu'un sur Internet?
En disant des choses vraies.
Voilà, en disant des choses que tu ne dis à personne d'autre dans ta vraie vie. Et en même temps, comment tu fais la différence? Surtout que très rapidement, on va voir que Simon, il veut que la vie d'Internet se mélange avec sa vie réelle.
Oui, mais ce qui est assez réaliste, surtout dans le cadre du coming out, en vrai, je trouve que l'intrigue est hyper bien ficelée parce que, enfin, je sais pas vous, mais quand t'es au lycée, enfin personnellement en tout cas.
Ah, moi personne savait, hein. Ouh là.
Voilà, exactement.
Mais moi je crois que j'avais pas trop non plus.
Non, mais je crois que la première personne à qui je l'ai dit, c'était une amie par texto, et le premier garçon avec qui j'ai dialogué, ça s'est fait par Facebook.
À l'époque, ça a été encore cool Facebook. Les jeunes qui nous écoutent.
Et enfin, du coup, je trouve que c'est assez réaliste et pertinent, et même tout l'attachement après que peut avoir Simon, alors qu'en vrai on se dit, t'envoies des mails, genre à quel moment tu peux tomber amoureux de la personne en face.
Puis c'est très de notre génération aussi, parce que je veux dire, nous on a tous été, tous autant qu'on est à cette table, sur des applis de rencontre, et genre tu peux discuter mais pendant des heures à une nana ou un mec que t'as jamais rencontré et que peut-être tu rencontreras jamais. Je trouve que c'est ça la beauté des applis de rencontre, tu peux juste discuter de sujets genre de je suis une grande folle, j'aime trop discuter de politique et tout, genre. Mais je trouve que tu peux avoir des connexions avec des gens qui sont comme toi, et alors que dans la vraie vie entre guillemets, c'est très difficile de savoir si dans un bar quelqu'un a la même orientation sexuelle que toi, etc. Enfin, c'est, je trouve que c'est une sécurité de parler à quelqu'un en ligne, et puis même, enfin, nous, genre, moi je sais que j'avais un Tumblr au lycée, genre j'avais des potes qui vivaient dans le Connecticut, et on se parlait sur Tumblr et on avait des vraies discussions et tout, et je trouve que c'est assez moderne comme moyen de montrer que tu peux avoir de l'affection pour quelqu'un simplement par écrit, sans que ça se dévergonde dans un truc un peu chelou et tout, ou genre tu ne vis que pour lui.
Bah, clairement, donc, je pense qu'on était un peu l'une des premières générations où on va avoir connu des amitiés qui ont été basées sur Internet, et avec des relations qui se construisent via Internet. Et moi, clairement, ma relation amoureuse a été construite via ça. Et du coup, c'est pour ça d'ailleurs que ce film, enfin ma relation amoureuse, ma précédente relation amoureuse, hip là, la seule que j'ai vraiment vécue d'ailleurs, by the way, hein, maintenant vous savez
c'est
tout.
C'est devenu une thérapie.
je vous cache rien, vous savez toute ma vie maintenant. Mais enfin, je veux dire, de toute façon, la plupart des gens qui écoutent me connaissent déjà, donc coucou, vous n'apprenez rien. Mais du coup, c'était avec quelqu'un et on a appris à se connaître plutôt par message, parce qu'en plus, on n'était pas dans la même ville. Et avec mon ex. Et du coup, ce film m'a un peu rappelé ce moment où, en fait, t'as beaucoup plus de facilité à parler avec quelqu'un qui est pas là, enfin, que tu vois pas l'anonymat d'Internet. Ça te fait te sentir, t'as l'impression que tu cries dans le vide.
Ouais, c'est ça.
Bon, alors qu'en fait, non, il y a quelqu'un au bout.
Oui, il y a quelqu'un au bout. Des fois, c'est un monsieur de 52 ans. Donc, il faut aussi faire attention. Attention, on dit pas de faire n'importe quoi sur Internet. Hein.
Dans le film, du coup, c'est le moment où lui sort de sa répétition de sa comédie musicale cabaret et il actualise son téléphone qu'il récupère chez le vice-principal. Et là,
oh my god,
Blue a répondu, et du coup Blue lui dit est-ce que du coup ton secret c'est le même que le mien, et si oui, quand est-ce que tu as su?
Et là c'est trop mignon, on a Simon en voix off avec des petits flashbacks qui nous racontent comment, enfin l'éveil de sa sexualité d'ailleurs, on a les flashbacks où ils lui ont collé des faux boutons d'acné, c'est très drôle. Mais donc son premier fantasme a été Daniel Radcliffe.
Parce qu'il avait un poster d'Harry Potter dans sa chambre.
Ça, le montage de la scène est vraiment très drôle parce que Simon est sur son lit et il y a des gros zooms sur le poster, et c'est le poster de Harry Potter 6 où il y a dans le gros vert de sa lunette le reflet de Dumbledore. C'est hilarant.
Mais ça vous est arrivé, vous, d'avoir un truc où vous avez réalisé que vous étiez queer grâce à quelqu'un? Je crois que Flore, t'as une petite histoire à nous raconter.
Mais alors moi je l'ai pas réalisé parce que je pensais que c'était normal ce que je racontais, qui était que dès le collège je disais à tout le monde que j'étais hétéro, mais que si je rencontrais Scarlett Johansson, bien sûr que je coucherais avec Scarlett Johansson. Qui ne coucherait pas avec Scarlett Johansson? Et j'ai appris que, en fait, bah non, il y a plein de gens qui coucheraient pas avec Scarlett Johansson. J'étais là, je comprends pas de ce que vous me racontez, en fait. Mais d'ailleurs, juste après aussi, donc, quand il raconte de ce qu'il s'est rendu compte qu'il l'avait aidé, il dit aussi qu'il était vraiment obsédé par Panic at the Disco quand il était jeune, qui est un truc assez commun chez les personnes queer. Et ça m'a rappelé, moi, que c'est le clip de Katy Perry à Kiss the Girl est sorti.
Ah oui, 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 beaucoup, ouais. Ouf.
Je sais pas toi, Clara, mais moi, j'étais là.
Ah oui.
C'est intéressant ce concept. Genre, non, mais je connaissais pas.
Si, et alors, moi, je me souviens d'un truc, mais bon, c'est pas vraiment. Enfin. Mon premier amoureux, c'était Roger dans le sang dalmatien.
J'adore cette anecdote.
Quand j'étais petite, j'étais folle amoureuse de Roger. Il m'en fallait pas plus. Et en fait, après, on grandit, etc. Et par contre, je me souviens d'avoir vu Mulan, où vraiment, j'ai été là genre, ah ouais, mais moi, je pensais que je voulais être elle. Ah ouais, en fait, je voulais être avec elle. Mais c'est parce que c'est des gens qui sortent des comment on va dire,
oui, des
tranchées. Enfin, tu vois.
Oui, c'est vrai que par rapport à tous les Disney où on était habitué à avoir des petites filles, des petites princesses,
des princesses en robe et tout.
Mulan, moi, je l'aimais trop.
Mulan, une queen, genre vraiment.
Il y a aussi quand même la super scène où Simon dit aussi qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour les filles quand il raconte qu'en fait il a eu son amoureuse avec qui il a dansé un slow à la prom il y a 5 ans, et sa copine du coup de l'époque lui dit: je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Et là, il fait... je reviens. Et il part aux toilettes, il se cache, et il envoie des textos à sa mère en disant s'il te plaît, maman, viens me chercher. Les autres boivent de l'alcool, et sa mère est là. J'arrive, mon chéri. Et ça aussi, pareil, ça m'a fait rire. C'est vrai que j'ai des histoires. Enfin, moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont queer qui ont eu ces histoires aussi, où tout d'un coup, ils se sont mis en couple avec une personne pour laquelle ils étaient pas attirés parce qu'ils pensaient que c'était hétéro, et au milieu, ils sont là. Ah ouais, mais en fait, non, on va faire demi-tour là, c'est pas possible.
Ouais. Mais sur cette note, j'embrasse très fort mon ami Thomas, avec qui je suis sortie pendant un an et demi au lycée, et au final, on est tous les deux queer. Donc écoute, j'ai envie de vous dire qu'il y a aussi des belles histoires.
J'ai une anecdote similaire. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler.
Si, mais c'est clairement, ça devient une thérapie, ce podcast.
Blip les noms, sinon, pour la
voilà,
cinéma.
C'est ça. Quand j'étais petit, j'avais une amoureuse de mes, genre, je sais pas, mes 5 à mes 8 ans, on va dire.
Damn, c'est long.
Et on est restés meilleurs amis jusqu'à la fin du collège, et on était un groupe, et il y avait une autre amie à moi. On a tous les trois grandi, et à l'adolescence, on s'est tous les trois révélés queer.
Non, mais et comme quoi, il y a peut-être, on se retrouve tous, je sais pas, il y a peut-être des trucs avec les hormones, ou rien, genre, il est dans mon camp, lui.
Non, mais c'est trop drôle, quoi.
À ce moment-là, dans le film, on voit qu'il parle de plus en plus Simon avec donc ce mystérieux Blue. Et plus ça va, plus les emails rentrent en confidence. Non, c'est de plus en plus, ils se racontent des trucs. Et d'ailleurs, on voit que Simon essaie de trouver des petits signes dans les mails de Blue. Plus Blue lui en dit, plus du coup il se dit ah, mais c'est qui ? Il essaie de trouver des signes. Et c'est vrai que c'est intéressant par rapport au trope de l'amoureux secret, c'est il est secret, mais t'essaies quand même vraiment de trouver qui il est. Au fur et à mesure.
Bah, mais, t'as une envie de savoir.
Bah, voilà. Mais toute cette petite idylle va être désossée très rapidement.
C'est le mot, hein, désossée.
Vous vous souvenez donc de Martin ? Martin, il est de retour.
Martin, c'est le gros loser de la comédie musicale qui va absolument choper Abby, la pote de Simon, qui est beaucoup trop bien pour lui. Et en fait, Martin is back, et Martin va aller sur l'ordi de Simon au CDI. Big up à ma documentaliste de collège, que je salue beaucoup de fois dans ce podcast, mais
c'est vrai.
Delphine, je pense à toi constamment. Sur cet ordinateur que Simon n'a pas eu le temps de fermer, il y a son mail et secret avec tous les mails de Blue dans la boîte.
Juste après, on se retrouve encore une scène de déjeuner avec les copains. Et,
avec tous les copains.
Avec tous les copains du lycée. Et il y a Bram, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Qui
est très beau. Il est très très beau.
C'est vrai qu'il est très mignon. Qui propose d'organiser une soirée d'Halloween chez lui. Et comme c'est rigolo, il dit qu'il adore manger des Oreos avec le fourrage spécial d'Halloween, qui est un truc orange qui a l'air dégueulasse au
c'est
possible.
C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse.
Et là, Simon se souvient que Blue lui a dit qu'il adorait ces Oreos-là, et à partir de ce moment-là, il se demande si Bram n'est pas le fameux Blue. Et c'est rigolo parce que d'un point de vue de la réalisation, on commence à voir qui est la personne qui écrit de l'autre côté de l'ordinateur, et on voit le visage de Bram. Il est trop tôt dans le film
ouais,
pour en être sûr.
En tout cas, ouais.
Donc on suppose que, enfin, c'est ce qui arrive en fait à chaque fois qu'il pense à quelqu'un pouvant être Blue. On voit le visage auquel il pense derrière l'ordi.
Ouais, c'est trop bien, et je trouve ça vraiment en plus, enfin, hyper intelligent, parce que moi, c'est, enfin, quand t'es ado, le nombre de fois où tu t'imagines ton love interest dans des scènes, en fait, oh, mais là, je suis sûre qu'il pense à moi et tout, alors que non, personne ne pense à toi.
Mais c'est vrai que par rapport à comment le trope est fichu, c'est vrai que j'aime bien comment c'est fait ça dans le film, où c'est le côté il est mystère, et du coup en fait juste tu plaques un peu le jeu où tu mets des têtes différentes sur des bonhommes différents et tout. Et parce qu'à chaque fois il dit, enfin c'est dur en fait de pas imaginer la personne, c'est humain de vouloir être en face de quelqu'un qui a
une tête. Tout ce beau petit monde va être encore plus train wrecked, puisque Martin redébarque et lui révèle qu'il a vu ses emails. Et en fait, il dit, déjà, il fait un truc que je déteste et qu'on m'a fait, pas de cette forme-là, mais genre, quand quelqu'un apprend que t'es queer et qu'il fait « Ah, mon frère est queer !» Et alors ? Bah, vous entendrez bien. Bah, c'est pas parce que Flore est blonde et que moi je suis blonde qu'on est amis, c'est parce qu'on a des points communs.
Dont le fait d'être queer.
Mais genre, bah, écoutez, là, c'est une. Bon, voilà. Mais c'est un peu débile. Et en fait, il fait ça, il arrive et fait. Bah, mon frère est gay, et toi aussi, du coup, lol.
La lourdeur du titre.
Non, mais je te jure, atroce.
Et d'ailleurs, cette scène avec Martin, elle est un peu. Enfin, c'est pas qu'elle est bizarre, mais en gros, il dit mon frère est gay, sous-entendu, en fait, je suis ultra ok, t'inquiète, autour de moi. Suivi après de. Bah du coup je pense qu'on est dans... Et quand Simon il commence à être un peu mais what the fuck et tout, il dit non mais t'inquiète, je vais les montrer à personne. Et là donc tu comprends que Martin a fait des screenshots des mails. Quel chouin
ce mec. J'ai écrit gros tas de merde. Voilà. Parce que ça, ça s'appelle du chantage et en fait, c'est totalement ce qu'il va faire.
Oui, voilà. Parce qu'il va en gros lui dire bah, en fait, moi j'aime bien Abby et toi tu la connais, c'est ta pote, je pense qu'on pourrait s'aider mutuellement. Et en plus, le personnage de Martin, il est présenté, et c'est vrai que du coup, pour un petit moment livre, le personnage est un tout petit peu mieux exploité dans le livre, mais c'est vraiment le personnage ne se rend pas du tout compte de la gravité de ses actes. Il est un peu en mode c'est ok, enfin en gros, non, c'est pas vraiment du chantage, c'est juste bah on va céder, alors que c'est. Bah, ne faites jamais du chantage pour outer quelqu'un, ça va pas la tête.
Ou même pour pas outer quelqu'un, pour jamais quelque
chose. Ne fais pas de chantage, mais c'est vrai qu'en plus, des trucs comme ça où c'est ta vie, enfin outer quelqu'un, c'est vraiment ça pourrait le mettre en danger. C'est...
Oui, ça m'est arrivé et 100% ne recommanderais pas voilà. Sur TripAdvisor.
Voilà.
Suite au chantage de Martin, Simon se rend chez lui, entre guillemets, pour que l'accord soit conclu, quoi. On découvre que Martin a une chambre remplie de posters et d'accessoires de magie, plus creepy, tu meurs.
Il est atroce ce mec.
Et du coup, Simon, pour conclure le deal, lui propose de l'accompagner avec ses amis à la soirée d'Halloween chez Bram.
Voilà. D'ailleurs, Simon et Léa, puisque c'est costumé vu que c'est Halloween, ils y vont un John Lennon et Yoko Ono. Et maintenant, enfin, je trouve ça un peu osé comme costume.
Ce sont les parents de Clara.
Oui, alors, non. Alors, ce sont mes vrais parents. En vrai, j'ai 48 ans. Non. C'est vrai que mes parents sont un peu des hippies modernes, mais sans toutes les horribles histoires sur John Lennon et Yoko Ono.
Ça a pas très... ouais, voilà. Dans le livre, ils se déguisent dans des trucs beaucoup plus indie, genre en gros, Léa, ils se déguisent dans un truc de manga que personne connaît, un truc de fruit basket pour les petits connaisseurs.
Fruit basket.
Et ah si, c'est ça qui est trop drôle. Simon se déguise en détraqueur de Harry Potter, donc c'est vraiment
génial.
Harry Potter boy.
C'est trop bien. Pourquoi ils ont pas gardé ça dans le film? C'est dommage.
En plus, un détraqueur, on voit pas son visage et tout. Ouais, c'est un peu intelligent.
J'adore. Et Abby, elle est tellement belle, mon dieu. Ouais. Elle est en Wonder Woman et ça lui va très très bien.
Clairement.
Et Nick, juste un maillot de foot et comme alors Nick est amoureux de Abby, faut préciser. Et comme Abby lui a dit un peu plus tôt dans le film que il ressemblait à Ronaldo, il a écrit Ronaldo sur son maillot.
C'est vraiment pas foulé. Mais du coup, toute cette petite clique prend la voiture pour aller à la fête de Bram. Et cette scène vraiment me met dans un malaise intégral parce qu'en gros il y a Nick et Abby qui ont une alchimie de malade et qui discutent et il y a Martin derrière qui essaie de lancer la discussion et en plus dans ces moments j'avais légèrement limite de la peine pour lui parce qu'en fait il essaie de poser des questions qui sont mignonnes de type genre qu'est-ce qui vous rend nostalgique et tout, enfin
c'est
en
pas
gros
le moment.
Il veut
c'est
lancer des discussions intenses, ce que je peux comprendre, c'est juste gênant parce que du coup il s'impose au milieu de personnes qui ont une trop bonne alchimie et c'est enfin vraiment cette scène moi me gêne j'étais trop mal pour lui.
En fait c'est ça qui est intéressant avec le personnage de Martin au-delà de sa lourdeur, c'est que c'est juste un mec qui est en quête d'amour et d'amitié.
Oui,
et
c'est un
qui
loser,
sait pas
quoi.
S'y prendre
ça,
quoi.
C'est
oui, et en même
loser.
Temps c'est un loser et pourtant quand Simon lui dit mais tu vois il faut que tu changes ça chez toi et tout, il dit non mais moi je veux pas changer, je veux juste montrer à Abby que je suis quelqu'un de bien, ce qui d'ailleurs au final Abby finit par l'apprécier en tant qu'ami.
En tant qu'ami, ouais, mais c'est ça qui comprend pas. Bon, ils arrivent chez Bram et puis Bram est déguisé en président Obama après sa présidence. Donc il a juste une chemise hawaïenne, un collier de fleurs, je trouve ça très drôle.
Meilleur costume.
à la soirée, Simon va faire un truc qu'il fait jamais, il va beaucoup boire, et en fait pour impressionner Bram, parce que du coup à ce stade du film il est persuadé que c'est Bram, et en fait Bram lui dit hey, « Eh mec, ça dit qu'on se fasse un beer pong et qu'on boive un coup ?» Et genre son pote il fait « Mais tu bois pas Simon aujourd'hui là ?»« Si si, je bois !» Cette soirée donc où tout le monde ment et tout le monde boit beaucoup se termine par Simon qui monte à l'étage pour trouver Bram, parce qu'il veut lui dire genre « Ouais, c'est toi Blue et tout !» Sauf que Bram, qu'est-ce qu'il fait ?
Il embrasse une fille.
Ah oh, putain, le
cette
salaud.
Scène, je ne sais pas si vous l'avez vécue, moi oui.
Ah non, putain, non. Alors, voir que quelqu'un que t'aimes est hétéro, oui, constamment. Non. Mais ça, c'est autre chose. Mais
ah, vraiment, la scène en mode dans la soirée, tu débarques, il est en train de.
Bah, pour la petite anecdote, la première personne sur qui j'ai eu un crush quand j'étais au lycée, qui était ouvertement bi, je l'avais contacté du coup par Facebook, comme j'ai dit plus tôt.
Oh my god!
En lui disant que j'étais gay, le mec s'en fout complètement, je sais pas pourquoi j'ai eu besoin
c'est
de dire.
C'est ton histoire, genre Love Simon.
Et du coup, il m'avait répondu un truc en mode ok, pourquoi tu me l'écris à moi, machin.
<T'es qui>
écoute, on parle que sur Messenger pour l'instant. Il y avait pas Messenger à l'époque, mais on parle que par Facebook. J'étais genre ok. Et on était invités à la même soirée de Nouvel An. En plus, il était en première, j'étais en seconde. Ou non, il était en terminale, j'étais en première. Bref. Et je me suis dit, bon, pendant la soirée, on va discuter ou quoi. Il a chopé une meuf juste devant moi en train de danser, j'étais en mode
oh non,
Bref, j'ai vécu cette scène.
Justice pour bébé Adrien. Après la soirée, il rentre chez lui bourré avec sa meilleure pote, donc Léa. Et là, il y a quand même une petite scène qui est intéressante pour la suite, qui est en fait Léa qui fait un peu des sous-entendus sur sa... comment elle aime les gens, et bon, nous en tant que spectateurs, on comprend un peu ce qui est sous-entendu, c'est-à-dire qu'elle est peut-être amoureuse de Simon, mais Simon il est tellement dans sa tête et dans son truc d'avoir des secrets
dans sa bulle comme voilà. James
qu'il se rend pas du tout compte de ce qui est sous-entendu, parce que lui il projette complètement l'histoire d'avoir un secret avec l'homosexualité, mais en fait il fallait peut-être qu'il écoute un peu plus attentivement ce que lui disait Léa.
On le verra par la suite. Ensuite il s'imagine deux scènes, c'est un peu dans ses rêves slash dans sa tête. Une première où il dit mais pourquoi c'est toujours les gays qui doivent faire leur coming out, et donc c'est des scènes de ses potes qui disent à leurs parents je suis hétérosexuel, et c'est très drôle.
Les parents sont en pleurs.
Oui, ils sont là genre pourquoi, c'est parce que ton père est parti, genre, c'est grave drôle. Et ensuite il se dit mais de toute façon moi je m'en fous, je vivrai ma full vie de gay accompli quand je vais à l'université. Et alors là il y a une scène d'anthologie de comédie musicale
qui est si cheap mais si drôle.
En fait c'est des gens avec des t-shirts des 6 couleurs de l'arc-en-ciel quoi, qui chantent sur Diana Ross, Whitney Houston.
Ah, oui, I wanna dance with somebody.
Ouais, c'est ça.
Je pense qu'en tant que queer, quand on se projette dans la vie dans laquelle on sera out et fier de l'être, c'est clairement ça qu'on imagine dans un premier temps.
Non, clairement.
Et en même temps, c'est drôle parce qu'à la fin de sa supervision où tout le monde danse et qu'il a des posters couverts de trucs homosexuels, il est là. Non, mais peut-être pas aussi gay.
Ouais. Martin met un petit coup de pression à Simon en lui disant « Eh, mais en fait, Abby, elle m'aime toujours pas. » Du coup, Simon, il fait « Bah, on va aller manger des gaufres et réviser cabaret ensemble. » Et à la Waffle House, où ils vont prendre leur petit encart. En plus, il est méga tard. Enfin, je comprends pas trop cette truc. Bah, c'est très américain. Il y a un serveur qui s'appelle Lyle, qui n'est pas un prénom, mais une application de start-upper. Lyle est une ancienne connaissance de lycée de Simon et ses potes. Et en fait... il a des petites manières, des petites choses qui font penser à l'écriture de Blue, à Simon. Et du coup, Simon se dit « Oh my god, mais c'est lui !» Et là, du coup, son cerveau de adolescent complètement en manque fait « Sweet !» Et à la place de Bram, c'est lui qui voit dans les flashs où il se dit que c'est Blue.
Et c'est vrai que par rapport au trope, du coup, de l'amoureux mystère, la façon dont c'est traité, c'est super intéressant, parce que c'est vraiment la façon dont, comme... tu as envie de voir cette personne partout, bah déjà tu la vois partout, le serveur te fait un sous-entendu et t'es là, c'est absolument lui, c'était sûr, oh mon dieu. Et ensuite ton cerveau plaque vraiment tout dans sa tête et il est persuadé que c'est lui, alors que bon,
on va voir. Ils discutent un petit peu dehors je crois, mais c'est peu concluant. Et pendant ce temps, Martin et Abby deviennent à peu près copains, genre potes quoi. Ouais. Abby elle se dit, oh bah il est pas si pire. Oh my god, après c'est la scène du coming out. Adrien, tu peux nous en parler?
Oui. À l'issue de cette soirée, Simon raccompagne Abby en voiture et là il lui avoue qu'il est gay. Et ça se passe très très bien. C'est une très jolie scène du film où Abby est hyper compréhensive.
En fait, elle s'en fout un peu. Enfin, elle s'en fout pas, mais elle est genre.
C'est normal. Oui.
Bisous à ma grande sœur. Quand je lui ai dit que je sortais avec mon ex, ce qui du coup a fait office de coming out, et je lui dis ah ben en fait je sors avec elle, elle m'a dit ah ben enfin.
Trop chou. Et Simon décide, enfin se motive à faire son coming out parce qu'en fait Blue lui a dit par mail qu'il allait le dire à ses parents. Et donc c'est mignon aussi par rapport au trope de l'amoureux secret, c'est que ils se sont pas rencontrés, mais chacun s'épanouit en dialoguant avec l'autre et leur vie personnelle avance énormément par rapport à leur sexualité. Et donc c'est très chouette et c'est super que Abby soit très positive par rapport à tout ça.
Ouais. Et ben là c'est le début du bourbier, n'est-ce pas?
Oui, clairement, parce que Nick décide enfin de se lancer avec Abby et d'aller lui dire. Du coup, il dit à Simon « Non, mais c'est bon, j'ai décidé, je vais y aller. » Et là, Simon, il dit « Non, 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 non. » Et c'est vrai que là, il fait un truc qui, d'ailleurs, est vraiment ultra pas cool. Il dit « Non, mais en fait, Abby, elle aime Martin. » Et du coup, Nick, il est là « Quoi ?» Et il dit, et en plus, c'est Léa qui t'aime. Demande à Léa d'aller au dîner avec toi, enfin, de faire un date avec toi. Ce qui est vraiment horrible parce que du coup, lui, il sait très bien que Nick, il n'est pas à fond sur Léa. Et du coup, il les match ensemble pour essayer de sauver la mise. Et c'est vraiment pas cool pour ses potes. C'est un passage qui vraiment moi, me dérange par rapport au personnage de Simon, mais qui en même temps, on comprend pourquoi il en vient là. Mais c'est un passage qui n'est pas dans le livre. Et que du coup, le fait de le mettre dans le film, moi, je suis un peu là.
Ouais, et en même temps, je trouve que ça ajoute aussi à l'histoire parce que lui il se sent tellement menacé et je pense que les personnes extérieures à la scène queer ne comprennent pas à quel point en fait ça peut être très désagréable et parfois dangereux d'être outé malgré soi et que c'est accepté majoritairement dans la société mais Pas toujours, hein, en fait. C'est, enfin, et puis surtout, c'est pas un choix, quoi. C'était non, pas là en mode d'un coup, je suis gay.
Et surtout, Simon, en fait, c'est un garçon de 17 ans. Enfin, il faut ouais, aussi se dire que ça, faire des décisions nulles comme ça, ça va aussi avec le fait que. Bon, voilà, il a 17
ans. C'est un adolescent. Ils vont donc au match de leur école de football américain, puisque c'est une école américaine. Mmh. Donc, il y a un match et à la fin, il y aura une prom.
Et alors, avant que le match commence, il tombe à nouveau sur Lyle. Donc.
Cette scène.
C'est hyper drôle parce qu'en plus, depuis qu'Abby est au courant, elle essaie vachement de le décomplexer, de lui dire « Ah, oh, mais t'as vu ce mec, qu'est-ce que t'en penses ?» et tout. Il va hyper content vers Lyle et en fait, il se rend compte que ce dernier veut en fait essayer de choper Abby.
Comme tout le monde, hein, dans ce lycée, tout le monde veut essayer de choper Abby.
Et nous aussi.
Nous aussi. Ah, franchement, mais qu'est-ce qu'elle est belle.
C'est vrai que cette scène nous rit parce que c'est encore le moment où tu t'es fait tous tes films en te disant bah, « En fait, c'est lui, en plus, c'est vraiment la scène où le serveur dit « En fait, j'ai un truc à te demander et tout. » Du coup, tu te dis oh my god et tout. Ben en fait,
le match commence parce que c'est l'angoisse.
Et surtout, juste avant qu'il commence, du coup, Simon il est complètement au cœur brisé de se rendre compte que le serveur c'est pas lui. Et il y a Martin qui arrive et qui lui dit Et j'ai pensé à un truc pour faire pour Abby et tout. Et Simon il lui dit Tu sais quoi, j'en ai marre d'interférer dans la vie de mes potes pour ça, fais ce que tu veux, adios.
L'idiot.
Alors qu'il aurait dû clairement demander d'abord à Martin ce qu'il avait prévu.
Oh my god, quelle horreur. Puisque Martin il va prendre le micro de la fille qui chante l'hymne national, c'est très drôle.
Elle
essaie de se pousser de la scène et il est genre non. Et il est déguisé en mascotte, en castor, je crois, je sais plus. Et en fait, il va prendre le micro et faire une déclaration à tout le stade d'amour à Abby. Il y a un truc qui m'a vraiment tué, c'est le vice principal. À la fin de son speech, il est sur le côté, il fait oh, dis oui, dis oui, dis oui. C'est si gênant, c'est atroce. C'était vraiment nous tous quand on a vu cette scène.
Il y a un lâcher de colombe.
Ah ouais, il y a un lâcher de colombe.
Il y en a genre 2-3, tu sais pas où il les a attrapés dans le parc d'à côté, clairement.
Évidemment, bah, Abby elle dit non parce qu'elle l'aime pas, Martin.
Et ça devient donc extrêmement gênant, mais ça, Simon il l'oublie un peu parce que là on va passer dans le passage du film où il a une nouvelle idée de qui est Blue. Blue serait Cal, un garçon qui est dans son groupe de comédie musicale.
Mais il y a un moment très important aussi à ce moment-là, un moment très important à ce moment, bravo Clara, c'est que les gens commencent à harceler Martin. Mm. Et ça, c'est très important parce que en gros, bon bah, il est un ridicule sur le champ de foot. Champ de foot, terrain de foot. Je fais énormément de sport. Hein.
C'est faux.
Du coup, il y a des gens qui font des mèmes de lui et qui les mettent sur le blog.
Mais vraiment, cette histoire de blog là, Craig Secret ou je sais pas quoi, ça m'a fait penser. Est-ce que quand vous étiez au lycée, il y a eu une époque où vous aviez des pages Gossip Girl de
Spotted.
Oui, Spotted. Voilà. Spotted. Est-ce que vous aviez
on l'a
Spotted.
Eu.
C'était vraiment le bout. Ça, c'était vraiment les raclures de l'univers. Hein.
Ah ouais, non, ça c'était le bout du bout du bout du bout du bout. Et en plus, généralement, c'était très peu flatteur.
Là, c'est le moment un peu All is lost. Enfin, c'est pas exactement le All is lost, ça va arriver.
Il arrive.
Mais en fait, Martin.
C'était une énorme merde.
On comprend après qu'il le fait pour qu'on dévie l'attention de ce qui a été amené sur lui avec tous les mèmes qu'il y a sur le blog. Décide de poster les screenshots qu'il avait pris des mails sur le site en disant bah, en fait, ça c'est Simon et Simon il est gay, il a un correspondant secret et tout. D'ailleurs, petite parenthèse, encore une fois, c'est pas pour faire la meuf chiante qui dit c'est pas comme ça dans le livre, mais dans le livre, il ne poste pas les screenshots, il les a supprimés depuis le début en fait, il les avait pas gardés. Et du coup, c'est vrai que pour moi, je trouve que le fait qu'il y ait les screenshots qui soient postés, c'est vraiment encore pire parce que non seulement tu outes quelqu'un, mais tu outes sa vie privée, son intimité où il raconte sa vie dans le mail, et le personnage de Martin en devient encore plus détestable. Et ça, c'est une petite subtilité qu'il n'y a pas dans le livre que, pareil, j'aurais préféré. Je sais que dans le film, ils l'ont mis pour le drama, mais j'aurais préféré que ça y soit pas. Dans tous les cas, le résultat est le même. En fait, Léa FaceTime, encore une fois FaceTime, Simon pour lui dire
T'as vu le blog.
Et Simon et voit, il a dit oh my god. Et il y a aussi une scène là qui m'a trop, enfin moi qui m'a fait trop de peine et tout. C'est la scène avec la petite sœur qui arrive.
Oh, c'est atroce parce que
et parce
oui, la sœur de Simon est plus jeune que lui.
Elle
en
est
fait.
Petite et elle sait pas quoi faire. Elle lui dit bah tu pourrais. Et il lui dit bah c'est vrai, je sais pas quoi. Elle voit qu'il est en panique et elle dit bah tu pourrais le nier. Et il dit mais pourquoi je voudrais le nier. Enfin il s'énerve et elle dit bah je sais pas. Elle se met à pleurer et c'est horrible parce que. Pour lui, on sent comment c'est horrible. Là, il le dit pour la première fois à quelqu'un de sa famille, et la réaction, c'est en mode, bah du coup, peut-être que si c'est pas bien, enfin que les gens sachent, nie-le. Alors que là, tout ce qu'il fallait, c'est qu'il ait quelqu'un qui lui dise ça. Enfin.
Ouais. Mais c'est, en même temps, c'est difficile parce qu'elle est super jeune et tout. Mmh. Enfin, cette scène, elle m'a brisé le cœur.
Et tout ça arrive le jour de Noël.
Oui.
Drama.
En fait, c'est pendant les vacances de Noël et c'est important parce que du coup, il faut dire qu'il retourne pas au lycée tout de suite, quoi. Genre, il a un peu de temps pour que ça décampe. D'ailleurs, Blue lui a fait une playlist de Noël. c'est Le chemin vers mon cœur. Si vous êtes célibataire, n'hésitez surtout pas.
En plus de ça, maintenant qu'il est outé, le drame, c'est que Cal est en, que Blue est en vacances et qu'il a pas internet, donc il est même pas au courant de ce qui se passe. Et Simon ne peut pas se confier à lui. C'est le jour de Noël, il déballe ses cadeaux et il choisit ce moment-là pour faire son coming out à ses parents.
Ça se passe moins bien qu'on pensait. Franchement, ouais. Honnêtement, je me souvenais plus de cette scène. J'avais oublié que ça se passait comme ça. Et en fait, son père se barre.
Bah ouais, son père fait une. En fait, c'est un moment un peu bizarre où son père fait une blague et sa mère dit genre non, mais en fait, ça c'est pas le moment.
Et même la petite sœur prend la défense et elle lui dit mais papa, mais arrête, ouais, elle parle vraiment mal et là il se barre.
Ouais, et après il se barre, c'est un peu bizarre, ouais.
Il y a une scène que j'adore là parce que du coup, comme il est outé un peu à tout le monde, bah il google comment s'habiller comme un gay.
Il met des cols V.
Franchement, le film est sorti en 2018, c'était déjà plus à la mode. Hein.
Ben en fait, il se prépare parce que du coup, là, c'est les vacances et du coup, il va falloir qu'il retourne au lycée. Mais surtout, il répond à plus personne, aucun mail, aucun texto qu'il reçoit de ses potes. Il est en mode bye. Et là, c'est le moment, c'est la rentrée. Et là, c'est le All is Lost.
Hein. Alors là, moi, j'étais terriblement terrible. Puisque, en gros, pendant les vacances, eux, ils se sont parlé, ses potes. Et Nick et Abby se sont expliqués et ils sont ensemble. Et ils sont furieux. Pour moi, ils sont un peu trop énervés à mon goût. En gros, ils ont compris le subterfuge et que Simon les avait poussés l'un vers Martin, enfin l'un vers Léa et l'autre vers Martin, pour se protéger. Et genre, Simon, il fait oui, mais sinon, il allait dire à tout le monde que j'étais gay. Et genre, ses potes sont là. Et alors ? Mais genre, mec, tu sais pas ce que c'est en fait.
Enfin, quand même, pour leur défense, c'est pas exactement ça qu'ils disent, mais ils sont là, on comprend un peu, mais là, t'as quand même joué avec nous aussi, et nous aussi, on a une vie, nous aussi, t'as joué avec notre. Ok, tu voulais protéger ta vie amoureuse et ta vie privée, mais nous aussi, on en a une, et là, tu l'as un peu mise en danger aussi, quoi.
Mais là où je trouve que c'est intéressant, même si effectivement ça aurait pu être mieux fait, c'est que le All is Lost, il est pas tout à fait sur le fait d'être out.
Non, c'est le fait de perdre ses amis.
Voilà, c'est ça. Donc vraiment, ça, je trouve que c'est une rom-com hyper intelligente sur le coming out parce qu'on reste sur des relations humaines et c'est pas sa sexualité qui crée vraiment le problème dans cette séquence-là, en tout cas.
C'est vrai. C'est aussi le moment dans ce truc de dispute où en fait Léa du coup dit à Simon mais pourquoi est-ce que tu m'as envoyé avec Nick, tu savais que j'allais me faire le cœur brisé, et Simon dit mais non mais t'étais une love de lui, je pouvais le voir, et elle dit mais non pas du tout, c'était de toi, entre parenthèses, encore quelque chose qui n'est pas dans le livre et que j'aurais aimé qu'il ne soit pas dans le film.
C'est donc la rentrée de l'angoisse et elle continue puisque en fait comme il est outé au lycée, déjà il y a son ancienne meuf, c'est, en plus elle dit genre est-ce que t'es sortie avec moi parce que j'avais l'air d'un mec,
ouais.
Mais grosse vache, bon.
Mais là, sa réponse est drôle, il dit non justement parce que tu ressemblais pas à ça. Oui,
et elle est là, ah ok. Genre,
super.
Et après là, je supporte grave la cause. Okay,
bye. Et il y a la scène du self qui est atroce et que j'espère que personne d'entre vous qui écoutez ce podcast aura jamais à vivre. Où en gros, t'as deux jocks, donc deux populaires, deux joueurs de foot qui arrivent dans le self et qui mettent quoi comme musique, ils mettent pas what a man enfin ils arrivent avec une boombox, deux gros bouffons, et en fait il y en a un qui a une perruque qui ressemble aux cheveux d'Ethan parce qu'Ethan a les cheveux longs, et l'autre qui a le hoodie de Simon, et en fait ils font genre de danser de manière très vulgaire et de s'embrasser et de faire du sexe anal sur les tables du self,
voilà, en mode et voilà on est tous agrogués et c'est super drôle. Et personne d'ailleurs ne fait rien, à part Dieu merci la prof de théâtre qui arrive pour intervenir qui vraiment les remet à leur place, les envoie chez le proviseur et tout. Proviseur qui d'ailleurs, on va passer vite dessus, mais est nul à gérer la situation. Mais c'est un moment, une petite scène mignonne entre Ethan et Simon.
En gros, Simon s'excuse auprès d'Ethan, ce qui est très mignon, parce qu'il lui dit ouais, je suis désolée, je me suis jamais mis en travers des gens qui te causaient du souci. Et Ethan il lui dit mais en même temps pourquoi tu m'as pas dit t'étais gay toi aussi, enfin ça aurait été un échappatoire pour tous les deux quoi, qu'on puisse en parler entre nous, etc. Et en fait Simon dit qu'il était un peu jaloux de l'aisance avec laquelle Ethan affichait sa queerness, et Ethan lui dit mais tu crois que c'est facile? Oh loulou.
Ouais, c'est assez intéressant parce qu'il compare dans le film deux masculinités et deux façons d'exprimer son homosexualité, et c'est vrai que de temps en temps Simon a pu avoir quelques petites répliques où il reprocherait en tout cas la façon dont Ethan s'habille,
la flamboyance du personnage,
ouais, voilà, c'est ça. et du coup entre guillemets a participé aussi aux détracteurs de d'Ethan. Et je trouve ça cool parce que cette scène elle pose vraiment les choses en disant il y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être gay en fait, juste,
ouais, c'est juste
tu
c'est
es
gay.
Et
être
puis...
gay c'est aimer un homme, c'est pas forcément de féminin, ouais,
voilà
féminin,
c'est ça,
ouais.
Et il y a cette histoire d'entraide qui ressort et qui est hyper belle.
Non, cette scène elle est vraiment très 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 mignonne. C'est pas Martin qui revient là, notre petit Martin?
Justement, là il y a la scène qui est pour moi une de mes scènes préférées du film, qui est une scène ultra importante, qui est Martin qui arrive sur le parking où Simon est et qui lui dit je suis trop désolée, en fait j'ai posté ça pour que les gens me laissent tranquille et je pensais pas du tout que ça prendrait cette ampleur. Et c'était un peu bah moi je pensais que ça serait ok. Et ce qui est un peu un truc de personnes qui sont pas queer, qui se rendent pas du tout compte de l'impact que ça peut avoir et qui du coup lui dit je pensais pas que ce serait un big deal. Et là il y a la réplique de Simon que j'aime trop qui dit mais en fait ça c'est mon truc, c'est à moi, c'est mon moment, c'est moi qui choisis où, quand, comment je le dis aux gens, si je veux que ce soit un big deal ou pas. Et il dit un truc que je trouve trop touchant, il dit et ça tu me l'as pris en fait,
ouais.
Et tu m'as empêché que ce soit mon truc et j'étais là trop beau. Et c'est vrai que c'est un moment que je pense, bon, je sais pas si toutes les personnes queer, j'espère pas, l'ont vécu,
si.
Mais ou parfois tu te fais. Alors moi, personnellement, je me suis jamais fait outer de façon horrible ou des trucs comme ça. Mais par exemple, dans ma famille, quand une fois que j'ai dit à ma famille nucléaire, ça a été répandu à la famille autour de façon un peu. Mais c'est, ça partait d'un trop bonne attention qui était que moi ça m'a facilité le travail, j'avais pas besoin de le faire, ça a été dit à ma place ou c'était en mode ah bah là Florelle a une copine. Mais c'est des moments où par exemple quand c'était dit à mes oncles, mes tantes, je m'en foutais un peu, je savais qu'ils seraient ok. Mais par exemple ma grande sœur l'a dit à une personne que je considérais comme ma grand-mère qui était beaucoup plus âgée et qui du coup avait pas forcément des réactions très adéquates, et j'aurais aimé que ça soit moi qui aurais choisi, enfin, et surtout elle m'a pas consultée sur le sujet,
ouais.
Et c'est le truc de, pour le coup c'est pas du blackmail, c'est, ça voulait pas être méchant, mais c'est juste parfois les gens se rendent pas compte qu'ils te prennent quelque chose qui devrait t'appartenir.
Oh, moi tu sais on m'a outé devant une classe de 30 personnes dans un cours de production. Voilà. On parlait de All is Lost tout à l'heure, mais moi le All is Lost il est là, c'est qu'en Blue il lui répond enfin par mail et il lui dit bah on peut plus parler. J'étais genre légit triste. Comme si moi on m'avait ghosté.
Horrible, oui c'est ça, parce que c'est un ghostage de fou, mais en plus de ça c'était son seul repère. Enfin vraiment c'est trop triste.
Et surtout c'est même pas juste qu'il disparaît, c'est que carrément il fait perdre, enfin genre il ferme sa boîte mail.
On découvre aussi que c'est pas le mec du théâtre, que c'est pas Cal, parce que Simon va le voir carrément, il fait c'est toi. Il fait non, mais il est trop gentil parce qu'il fait écoute t'as l'air d'avoir une journée difficile et des vacances difficiles, est-ce que tu veux qu'on parle, est-ce que t'as besoin de quelqu'un à qui parler et tout. Et Simon lui dit bah non, mais genre je trouve ça trop gentil de la part d'un autre homme de montrer, en fait il y a beaucoup de masculinités différentes montrées dans Love, Simon, et je trouve que c'est, on parle souvent de sororité, que la sororité c'est hyper important, là, en gros le soutien entre femmes, mais les liens de fraternité qu'il y a entre les hommes du film, je trouve ça trop chouette, quoi. Bon, à part Martin qui est un énorme tas de merde, mais voilà.
Et à partir de ce moment-là, c'est le All is Lost pour Simon, mais il va un peu faire son chemin de rédemption et discuter avec toutes ses personnes proches. Donc Léa notamment, mais aussi ses parents.
Sa maman.
Sa maman qui a le meilleur discours du monde. Qui lui dit
tu peux respirer maintenant, c'est bon. Et genre, j'ai dit, t'es là, ah non,
qu'est-ce que je respire. Franchement, magnifique. J'aime trop Jennifer Garner.
Ouais, elle est trop chouette.
La scène avec le papa est très belle aussi.
Ouais.
Peut-être trop idyllique, je ne sais pas. Mais
en gros, il confronte son père, genre, il est là, genre, du coup, est-ce que t'es un connard homophobe ou pas?
C'est le père qui, direct, très vite, se dit je suis désolée pour tout ce que j'ai dit, toutes les remarques que j'ai fait tous ces temps, je m'en rendais pas compte.
Et en fait, on comprend qu'il était fâché à Noël, pas parce qu'il est gay, mais parce qu'il lui a pas dit, en fait.
Ouais.
Et parce que putain, mais ça fait 4 ans que tu sais, et moi, je sais pas, et je suis ton père, genre, et j'ai trouvé ça touchant. Ah, et aussi, on les voit pleurer, Simon et son papa, et je trouve ça trop mignon, parce que pareil, encore une masculinité montrée, c'est des hommes qui pleurent. Et après, il lui demande est-ce que je peux m'inscrire sur Grindr?
C'est no.
Facebook pour les gay people. Alors,
on va vous expliquer.
Si vous êtes hétérosexuel, n'allez pas sur Grindr. Je pense que c'est une expérience qui, même pour certaines personnes queer, est un peu traumatisante.
Oui, ça a certains côtés violents.
Oui, c'est une petite expérience sensuelle, sensationnelle et pleine de surprises. Simon, du coup, la prochaine étape dans sa rédemption, c'est un peu comme quand tu sors de rehab, c'est il va tout assumer, quoi. Donc il écrit sur le blog et il signe Simon. C'est trop touchant, il écrit une lettre d'amour à Blue, j'ai noté dans mes notes je meurs en lettres majuscules, ce qui lui dit en gros oui grâce à toi j'ai fait des choses que je ne ferai jamais, nanana. Et ah oui, en fait il signe cette lettre Love Simon. Donc, avec tout mon amour, Simon.
Cette déclaration, elle est super parce que par rapport au trope de l'amoureux secret qui se fait à travers les réseaux sociaux, c'est génial parce que du coup, Simon retourne l'outil qui a été utilisé contre lui et il s'en sert pour refaire son coming out et l'assumer complètement. Et je trouve que c'est hyper important aujourd'hui de se dire que oui, il y a des gens qui trouvent que c'est bien, d'autres que c'est mal de faire des rencontres sur Internet. Mais en même temps, dans le film, c'est vraiment sa façon d'exprimer sa liberté. Et du coup, c'est hyper positif.
Ouais,
et
puis on parle de l'impact des réseaux sociaux et tout. J'avais cette discussion-là avec des gens qu'on a rencontrés le week-end dernier, qu'on connaissait pas beaucoup. Et en fait, la personne nous disait « Oh, moi, j'ai pas de réseaux sociaux parce que ça m'intéresse pas de m'afficher. » Et je suis genre, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça peut être extrêmement nocif, évidemment. Il faut s'en servir avec parcimonie. C'est qui parcimonie? Haha, bisous papa. Mais en fait, moi, les réseaux sociaux, pour tout ce qui est queer, ça m'a aidé, nanana. Mais notamment pour tout ce qui est confiance en soi, je trouve que, en fait, quand on choisit de suivre les bonnes personnes et qu'on a des restrictions, c'est-à-dire qu'on réserve son compte à certaines personnes ou qu'on bloque certains mots sur Twitter, enfin, qu'on se débrouille pour que ce soit une safe space, les réseaux sociaux, c'est tellement important.
Et c'est vrai que c'est exactement le propos de Love, Simon. Ils pensent tous qu'ils sont seuls. Et en fait, et d'ailleurs, dans le livre, quand il est outé sur le Tumblr, après, il y a plusieurs gens dans l'école qui trouvent un peu le courage de le faire aussi. Et du coup, je trouve, enfin, c'est trop mignon, ça peut être un vecteur de choses bénéfiques.
Oui, mais tu vois, là, on parlait des gens qui nous ont fait rendre compte qu'on était queer. Moi, je pense la youtubeuse Anna Hart, qui était une des premières youtubeuses lesbiennes dans le game, clairement, j'étais folle amoureuse d'elle.
Moi, j'ai toujours dit que je pense que s'il y avait eu accès aux réseaux sociaux quand j'étais jeune, je pense que je me serais rendu compte beaucoup plus vite que j'étais queer, parce que du coup, j'aurais vu beaucoup plus de représentations et je me serais dit, ah oui, en fait, genre, oui, je peux être. Alors, parce que moi, je voyais ça, je me disais, mais attends, je peux pas être queer parce que je ressemble pas à une meuf butch, genre ultra masculine. Donc je suis pas plot twist après c'était bleu mais du coup j'étais mais c'est pas en fait je suis pas lesbienne ou je suis pas queer parce que je suis pas comme ça et après j'étais là
oui c'est vrai que ce qui est génial en plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est que en termes de représentation on peut avoir des masculinités et des féminités tellement différentes et parfois croisées
et oui et surtout on parle énormément d'être queer en tant qu'être homosexuel et bisexuel depuis le début parce que c'est nos cas mais moi je fais un énorme bisou à tous ceux dont on ne parle pas donc tous mes asexuels, tous mes transgenres, tous mes agenres, tous les gens qu'on représente pas enfin on sait que en plus nous on a la chance entre guillemets d'avoir peut-être ce qui est le plus facile à gérer dans toutes les lettres qui forment LGBTQ.
Après cette grande digression queer friendly réseaux sociaux, on revient dans le film parce qu'on arrive au moment où il va à la fête foraine. Dieu merci qu'il y a des fêtes foraines dans tous les trucs de teen comédie
bisous à sexe éducation.
Fêtes foraines françaises, bon.
Stranger Things, tout ça. Et en fait, il faut préciser que dans sa lettre d'amour à Blue, il a écrit des fois t'as l'impression d'être sur la grande roue, mais moi ce soir j'y serai.
À fond dans les symboles, moi j'achète. Il donne 800 tickets au mec de la grande roue pour faire 800 tours et en gros il laisse une place à côté de lui pour que Blue puisse arriver quand il veut.
Et ça va ribaucher avec ses potes, du coup ils sont tous en bas genre wouh! Et il y a un peu tout le lycée.
Il y a tout le lycée, ouais, c'est un peu genre méga malaise en vrai.
Cette scène, je trouve ultra malaisante parce que je suis là. Mais c'est pas du tout pour quelqu'un qui a peur de se outer, enfin, c'est-à-dire le personnage de Blue. Là, il faut vraiment le faire devant tout le lycée. Et Martin arrive et là, non, stop! Et il dit genre, c'est moi Blue! Et là, tu te dis, quoi?
J'espère que non.
Et il dit, non, en fait, c'est juste que je voulais pas que tu sois solo. Et c'est lui qui donne le dernier ticket.
Et c'est, on te réserve le droit de le dire, Adrien.
C'est Bram!
Il est très beau!
Donc, c'était bien la première suspicion de Simon. Et enfin, on est trop ravis en tant que spectateur.
Mais j'ai déjà, je gloussais. T'étais pas là ce soir-là, j'étais dans la chambre. J'avais un masque sur le visage, une tisane dans la main, et je gloussais comme un dindon. J'étais là.
Mais c'est trop mignon parce que Bram, pour le coup, moi, j'aime bien que ce soit lui parce que c'est quand même un personnage avec lequel on a eu un peu d'attachement parce qu'on a vu,
ensemble.
Parce que moi, c'est ça, à la fin, je me dis, mais c'est qui? Parce que j'imaginais pas que ce soit quelqu'un qu'on avait pas vu depuis le début du film, ça aurait aucun sens. Et Bram, comme ils sont potes, on a eu des interactions. Oui. Et tout. C'est celui qui était déguisé en Obama post-président.
Je l'adore.
Un mec trop drôle.
Et Bram dit, parce qu'on est dans une rom-com très contemporaine, qu'il est non seulement gay, mais aussi noir et juif. Et
c'est drôle, il fait
la boîte à outils. Mais c'est quand même très agréable d'avoir autant de représentations dans un film.
On le sait en plus qu'il est juif assez tôt parce qu'il dit pour Anouka, je vais chez mon père. Et c'est cool, je trouve, d'avoir plus de religions montrées. Et après cette petite scène, on a donc l'épilogue, qui est littéralement la scène du début, mais avec un petit twist. Et qui est que, en fait, Simon a lancé une vague de confessions sur le blog de l'école. Des confessions sympas, genre des trucs en mode « J'avais pas confiance en moi, mais aujourd'hui, je suis sortie, je me suis trouvée belle », ou des trucs comme ça. Enfin,
j'ai envie d'être recteur, machin, machin.
Trop mignon. Et donc, il sort de chez lui, il a sa super voiture, il s'entend trop bien avec sa sœur, il a des super parents, il va chercher son super copain avec ses potes.
Ah, il y a une scène que... Enfin, dans cette scène, il y a un truc qui est trop mignon, c'est qu'en fait, quand juste Bram, il monte dans la voiture, ils sont un petit smack, il prend son café, et ça, c'est un truc que je trouve qu'on voit très rarement dans les films LGBT et dans la vie des personnes LGBT, qui est des scènes d'amour ultra normalisées,
domestique,
de petite vie. Souvent, le cinéma LGBT, c'est sur des films où c'est toujours très drama et tout.
Beaucoup de sexe.
Et tout, voilà. Oui, bisous à la vie d'Adèle, qu'on n'embrasse pas personnellement.
Non, j'ai vu qu'elle arrivait sur Netflix. Bon choice, hein.
Bref, anyway. Et donc, le fait qu'ils se font juste ça, c'est le truc où je suis là, j'aurais aimé voir ça quand j'étais jeune.
Non, mais de ouf. C'est trop mignon parce qu'en plus tu vois que Léa elle monte à l'avant et en fait dès que Bram arrive elle lui fait bon bah je te laisse ton mec à côté de toi, genre c'est vraiment un couple comme si c'était un homme et une femme, et j'ai trouvé ça trop chou.
C'est ça la force, je trouve, du film, parce qu'effectivement, même s'il y a plein de films LGBT trop cool, c'est souvent des films indépendants et qui versent à fond dans le drame.
Ah ouais.
Là on a vraiment l'équivalent de la comédie romantique mignonnette pour ados, sauf que c'est un couple homosexuel et qu'on achète tout autant, et c'est vraiment genre normalisé au possible, mais c'est très bien fait.
Regarde tout de suite ton ordinateur. Quelqu'un a publié tes emails sur le blog du lycée.
Je regrette, Simon. Je peux plus continuer.
Eh bien, nous allons demander à notre invité spécial ce qu'il pense du trope et du film et du rapport entre les deux. En essayant de rester concis, car je crois que les auditeurs sont déjà partis. Tellement c'est long.
Le film, je l'ai trouvé très très sympa. Comme je l'ai dit au début, je l'ai découvert grâce à vous. Et par rapport au trope, là aussi, je trouve qu'il est très bien traité parce que c'est hyper en lien avec notre actualité, à savoir les réseaux sociaux. Et que là, c'est au service d'une bonne cause, qui est la cause LGBT. Donc vraiment, je trouve que le film est hyper intéressant et qu'en plus de ça, même si bien sûr la quête de l'amoureux secret est ce qui parcourt le film, on a quand même toute l'intrigue juste de l'homosexualité de Simon en parallèle, et qu'il y a plusieurs fils rouges et c'est vraiment très agréable à suivre, et je trouve que c'est très encourageant.
Je suis 100% d'accord. C'est vrai que. Alors, moi, ce film.
Mais c'était moins bien que le livre.
Alors, je tiens à m'excuser platement, parce que j'ai fait beaucoup de liens, mais je trouve que c'est intéressant parce que je. Donc, parenthèse, mais si vous avez apprécié le film, je trouve que le livre pallie aux défauts du film. Après, c'est un livre pour des adolescents, donc si vous aimez des choses écrites très waouh, ça va pas vous bluffer. Mais voilà, moi, j'ai juste quelques tout petits problèmes avec ce film, qui sont certains côtés très drama, des réactions de ses amis, le fait que Blue disparaisse, machin, qui sont des choses que j'aime pas trop. Et je trouve que le personnage de Martin, qui fait le chantage, est mieux exploité dans le livre. Mais bon, ça c'est une parenthèse. En dehors de ça, ce film, quand je l'ai vu la première fois, je n'avais pas lu le livre, je l'ai lu pour le podcast. Je l'ai vu au cinéma avec Clara, bisous. Et ce film m'a super touchée et vraiment bouleversée, parce que je me suis dit, à la fin j'ai pleuré, parce que je me suis dit, il y a des ados actuellement dans le placard qui vont aller voir ce film au cinéma, et c'est des trucs que j'aurais trop aimé pouvoir voir quand j'étais jeune. Et,
dans le placard, ça veut dire qu'ils sont gays, qu'ils l'ont pas dit. On n'a pas mis tous les ados de France dans un placard.
C'est un peu Harry Potter, mais c'est juste vraiment sexuel. Mais du coup, un truc que j'aime bien pour revenir quand même sur l'histoire du trope, c'est que j'aime beaucoup comment est traité le fait que quand, avec cet amoureux secret, il se fait des espèces de projections dans sa tête, et j'aime bien comment la réalisation le montre, et parce que en effet je trouve que c'est un truc qu'on a peut-être tous ou moins plus vécu, même quand t'as un crush et que tu sais qui c'est, tu te fais des idées de comment il va être, tu te fais des visions,
le nombre de personnes que j'ai épousées dans ma tête,
voilà, c'est ouf. Et du coup je trouve que sur ça c'est super bien exploité, et encore comme l'a dit Adrien, le fait qu'il y a le côté queer au milieu, ça rajoute un petit, si c'est franchement, si c'était un film avec des personnes hétéros, ce serait vachement moins fun.
Ah, qu'est-ce qu'on s'ennuierait. Franchement, moi je suis, j'ai plus rien à dire parce que je suis d'accord avec vous. Je me dis que j'aurais bien aimé le voir ado, parce que je déplore le manque de rom-com LGBT. Donc il y a But I'm a Cheerleader, mais c'est pas vraiment une rom-com, c'est plus un chick flick.
On en parlera. Et c'est très peu connu.
Ouais, c'est très très peu connu, mais c'est avec Natasha Lyonne qui ne joue que des personnes queer, ouais. Très clairement. Mais il y a une autre rom-com qui s'appelle, je sais plus, avec c'est mon ex qui me l'avait montré. Je sais plus. Imagine Me and You.
Oui.
Et pareil, c'est des trucs avec des meufs de 35 ans qui ont des grands apparts à New York. C'est des trucs auxquels on peut pas s'identifier. Alors déjà, quand c'est une rom-com hétérosexuelle, limite, je trouve ça plus justifié.
Ouais.
mais là, vraiment, c'est la première rom-com que je regarde en me disant « Ah putain, j'aurais pu vivre ça étant adolescente et c'est trop mignon. » Et c'est un peu important de rappeler que écrire sur des personnes LGBT, c'est pas uniquement pour raconter des histoires de coming out triste, d'histoire tragique, de mort, de sida, etc. On n'est pas des gens malades et tristes, en fait.
Oui, et c'est vrai que moi, tout ce que j'attends dans ma vie, c'est le moment où on va pouvoir faire des rom-com avec des personnages queer dont le propos du film ne sera pas le coming out, ce sera juste
voilà.
By the way, ils sont queer, mais en fait c'est juste que ce qu'on veut, c'est sorte de rom-com. Moi, j'attends ma rom-com lesbienne
de Noël, un Netflix. Ben après, alors dans Flocons d'amour, le dernier film de Noël de Netflix, enfin l'un des derniers, il y a en fait c'est des histoires croisées, c'est comme le Actuality, c'est des destins croisés. Et il y a une storyline lesbienne et l'histoire porte un peu sur coming out malheureusement, mais je me suis dit putain, c'est déjà ça, parce que là ils sont petits, c'est des lycéens et tout. Enfin,
ah bah là on a un stade où on prend n'importe quoi.
Ouais, vraiment, tant que personne meurt à la fin ou que personne chope de maladie, voilà.
Si c'est un trope qui vous plaît, c'est pas un trope forcément très répandu, mais on a quelques films à vous recommander ou non d'ailleurs. Par exemple, on a. Merci Clara, ce week-end.
Bon, franchement, je suis très utile à ce podcast.
On a un film de Netflix qui s'appelle Sierra Burgess is a Loser.
Alors celui-là, on ne vous le recommande pas.
Parce que ça aurait pu être une bonne idée. Mais ça s'est mal terminé.
Voilà, enfin, c'est sur un amoureux secret qui finalement. En fait, c'est pas une amoureuse secrète, c'est une amoureuse qui prétend être une autre personne.
Ouais.
Et c'est, le amour, elle n'est pas très bien. Mais il y a Noah Centineo, voilà.
Oui, mais en fait, oui, ça porte des propos, c'est un peu du mensonge. Hein, c'est...
Ouais, c'est du catfish, ouais.
Ouais, c'est, oui, c'est voilà. Qu'on appelle du catfish, donc pas ouf. On a visiblement un film avec Ellen DeGeneres. Hein.
Oui, qui s'appelle Destinataire.
Destinataire inconnu.
Destinataire inconnu. En anglais, il s'appelle The Love Letter. Et ça, c'est vraiment pour le coup. Alors, c'est pas du tout bien. C'est pas bien, c'est une vieille rom-com des années 90 que personne n'a jamais vue, où en gros c'est une lettre d'amour un peu chaud patate qui arrive dans la boîte postale d'un tout petit village et elle n'est pas signée, et donc c'est la bibliothécaire du village qui la récupère et tout le monde se demande ouh, mais c'est qui a écrit ça, et tout le monde fantasme sur la personne qui a écrit ça, et voilà.
Et on a un petit film cool parce que c'est un film indien, c'est assez rare des rom-com,
ah oui.
Voilà, qui s'appelle The Lunchbox. Si vous ne l'avez pas vu, on recommande ça très chaudement.
Il est exceptionnel, ce film.
Donc Adrien, maintenant, va falloir que tu le regardes.
Voilà.
Oui, car je ne l'ai pas vu.
Où ils s'échangent des lettres d'amour avec des lunchbox interposés.
Donc, ouais, dans leur boîte à déjeuner. Trop, trop mignon.
Bah du coup le podcast arrive à sa fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ces trois queers en débandade en train de raconter leur vie. Et on aimerait évidemment remercier notre tout premier invité de podcast et en plus un peu fan invétéré. Adrien, merci,
oui,
d'être venu. Tu étais parfait. Moi j'ai peur que tu prennes notre place.
Mais clairement on va nous demander d'arrêter le podcast maintenant. Donc bon.
Merci beaucoup en tout cas les filles de m'avoir invité. Ça me fait trop plaisir, et non seulement parce que je vous entends faire vos podcasts quand je suis à la maison, mais en plus parce que le film était vraiment génial et c'était une expérience trop cool à faire avec vous. Merci
oui,
beaucoup.
Et on remercie évidemment vous tous qui nous écoutez encore. Oh my god, vous êtes toujours là, incroyable.
Oui. Et on vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin en retard, clairement.
Oui, et si vous êtes tout seul, ce n'est pas grave, regardez-nous, on est très cool. Voilà, écoutez, on se retrouve sur Instagram @comment le podcast, on se retrouve sur Twitter @comment le pot,
je crois,
c'est vrai, le podcast. Et bah on n'a pas Facebook parce qu'on est trop cool. Allez,
bah du coup au revoir Clara,
au revoir Flore, et au revoir Adrien,
au revoir les filles. I'll be worth the wait, like that night in the back of the cab when your fingers walked in my head. Next day, nothing on my phone, but I can still smell you on my clothes. I was hoping that things had changed, but we went right back to your games. All nights and daydreams, sugar and smoke rings. I've been a fool for strawberries and cigarettes. Always taste like you. Headlights.